France Inter.
France Inter. Le 18-20. Christelle Rebière.
On l'appelle la Gen Z, la génération de ceux qui ont aujourd'hui entre 15 et 29 ans. Comment voient-ils la vie? Quelles sont leurs priorités, leurs angoisses aussi? L'Institut Elab a mené une enquête pour le Cercle des économistes auprès de 5000 jeunes et c'est leur vulnérabilité qui ressort. L'insouciance est un luxe dans un monde en crise et en pleine mutation technologique, géopolitique, sociale. Ils ne sont que 4 sur 10 à se sentir très bien dans leur vie. Un tiers avoue avoir des problèmes de santé mentale. Et il faut trouver un premier emploi, un logement, boucler les fins de mois et ne pas rester seul. Alors, eh bien, ils redessinent leur monde, l'intime, les proches y ont une place de choix. L'équilibre personnel est central et dans le travail qui ne doit pas déborder sur le reste, demeure structurant. C'est ce passage complexe vers l'âge adulte qu'on a envie d'explorer avec vous ce soir, vous de la Gen Z, mais aussi vos proches, vos amis, vos collègues de boulot, votre employeur, pourquoi pas. L'écrivain Paul Nizan écrivait dans les années 30, j'avais 20 ans, je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. C'est le téléphone sonne ce soir, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne, 01 45 24 7000.
Et bonsoir Sophie.
Oui, bonsoir France Inter. oui, effectivement, j'ai 26 ans, j'ai appris que je faisais partie de la Gen Z. Et oui, pour une partie de ma génération, elle n'est pas unique, elle est plurielle, on n'est pas une seule jeunesse, mais on a un peu l'impression peut-être que la fête est finie alors qu'on n'avait pas tant l'impression qu'elle avait commencé pour nous. Moi, on m'avait dit que si je travaillais bien à l'école, je pourrais exister et pas seulement vivre, que j'aurais le droit à un logement, un travail stable, un voyage pendant les vacances d'été. Et c'est ce que j'ai fait. J'étais major de Sciences Po, j'ai travaillé un an dans un grand musée et à la fin de mon CDD, c'était juste le RSA, j'avais pas de riche garant, donc quitter le logement, c'était compliqué. Et aujourd'hui, moi, je me couche tous les soirs avec cette espèce de peur au ventre d'avoir un métier que je subis, d'être à la rue, et j'ai l'impression qu'on me demande de travailler plus dans un monde qui est plus absurde, un peu plus injuste, où les parkings des hôpitaux sont payants, ce qui est terrible. Un monde un peu en guerre, où le climat est bouleversé et où il est facile d'imaginer la fin du monde, mais pas celle du capitalisme. Et moi, j'ai l'impression que notre génération, elle a quand même pas été ménagée. Et contrairement aux pontifs qu'on veut pas travailler, bah si, en fait, on veut travailler, on veut vivre, et on veut exister, on veut pas justement vivre, on veut pas juste répondre à nos besoins.
On veut pas survivre. On veut vivre.
Ouais. Et on est un peu bloqué dans un vieux monde ou un monde de vieux, je sais pas. Et peut-être que la fête effectivement est finie et le mot que vous avez employé, c'était vulnérable et je crois que c'est un peu ça le sentiment, on se sent vulnérable. On peut se faire remplacer apparemment par des IA. Enfin, je sais pas, je m'interroge et on n'a pas peut-être autant de facilité que les générations précédentes à se projeter dans l'avenir. C'est plus précaire, disons.
Merci Sophie pour dialoguer avec vous ce soir dans le studio. Hélène Vérissère, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice du projet Jeunesse au Cercle des économistes et justement c'est avec l'Institut Elab donc, que vous avez élaboré cette grande enquête sur 5000 jeunes. Et bonsoir Dominique Bonchablon.
Bonsoir.
Vous êtes psychiatre à la Fondation Santé des étudiants de France et présidente du réseau Respect IDF, c'est ça ? C'est un réseau de structures de soins dédiées aux étudiants. Sophie, elle nous dit... La fête est finie. Est-ce que finalement, c'est ce que vous avez retenu aussi dans cette grande enquête, Hélène Vérissère ?
Bien, tout à fait. J'ai même envie de dire à Sophie, est-ce que vous n'auriez pas répondu à cette enquête ? Parce que vous l'avez parfaitement résumé. Vous faites partie de cette génération qui ne connaît pas l'insouciance, puisque vous faites face à un cumul de vulnérabilités. On a parlé du Covid, la crise inflationniste, de la crise climatique, des menaces de guerre, des problèmes de pouvoir d'achat, de logement. Je pense que votre génération, en tout cas la génération de Sophie, cumule un peu les mandats. Si je peux m'exprimer ainsi.
Ça, c'est quelque chose que vous avez retrouvé tout au long de votre enquête.
Constamment.
En fait, quand on lit votre enquête, ce qui nous a un peu sauté aux yeux, c'est des angoisses sur tout, en fait. Tout est angoissant. Ces jeunes-là, ils ont peur de tout aujourd'hui.
Alors, c'est angoissant. Après,
ils ont peur de travailler, ils ont peur
titre.
De ne pas travailler, ils ont peur de ce monde qui nous échappe à tous. C'est quand même quelque chose de très particulier. Est-ce que vous pensez qu'on est dans un moment de notre histoire vraiment inédit ?
Tout à fait. Il y a énormément de crises qui se cumulent et qui leur font se poser beaucoup de questions, qui les mettent dans des positions d'anxiété et d'angoisse permanente. Typiquement, dans l'enquête, c'est vrai qu'on parle beaucoup de leurs angoisses par rapport au pouvoir d'achat, oui. par rapport au logement. Parmi les verbatims qui sont sortis, il y a un jeune qui nous a parlé du malus jeunesse. C'est-à-dire qu'il a le sentiment, quand il va chercher un logement, le fait d'être jeune, pour lui, c'est un point négatif. Donc c'est quand même assez fort de parler en ces termes quand on est à la recherche d'un logement et que quelque part la vie s'ouvre à vous. Donc oui, après vous dire est-ce que c'est pire maintenant qu'avant, je ne sais pas. En tout état de cause, on est aujourd'hui dans une situation qui nécessite de prendre conscience de ces problématiques.
Ce manque d'insouciance, vous le ressentez aussi, Dominique Monchablon, avec tous ces jeunes qui viennent consulter?
Oui, absolument. Je nuancerai néanmoins, je trouve que... Alors, je m'occupe de jeunes étudiants,
oui.
Spécifiquement, je précise, et en Île-de-France. Et je trouve que cette jeunesse étudiante reste absolument magnifique, pleine de désirs, pleine d'ambition, pour certains, pleine de passion aussi, dont ils osent à peine parler. Et ils peuvent en parler dans l'intimité de la consultation psychologique. Et nous en sommes très heureux, mais en dépit de ces ressources de cette jeunesse, effectivement, ils accumulent les facteurs de stress. Et ça, depuis, je daterai ce mal-être, je le ferai remonter à 2015, période de l'autonomisation des universités, avec la montée de la compétition nationale des universités entre elles, et internationale bien sûr, avec une mobilité étudiante qui est aujourd'hui de mise, et donc des facteurs de déracinement, à la fois pour les internationaux qui arrivent en France et les nationaux qui partent à l'étranger. Aussi la promotion, et ça c'est une excellente chose, la promotion de la diversité, donc pour des jeunes qui sont issus, de milieux moins favorisés culturellement et qui sont confrontés à un choc culturel en arrivant dans les universités du centre de Paris, ces universités prestigieuses ou ces cursus sélectifs. Et enfin, évidemment, une montée en puissance très importante de l'inclusion du handicap. On n'oublie pas ça aussi, qui est évidemment une fragilisation supplémentaire.
Donc vous dites 2015 et puis 2020, évidemment.
Alors, le Covid a été évidemment un moment central pour la vie étudiante. Heureusement, on s'en éloigne. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été beaucoup plus en difficulté que toute la jeunesse du même âge et du même statut social. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient confinés deux fois. Donc, ils ont vécu ce premier confinement. La détresse psychologique, on la cote à 25% avant le Covid. 25%, 30% pendant le premier confinement. Et c'est monté jusqu'à 43% en 2021 au sortir du deuxième confinement. Donc,
Mais ce confinement, il a révélé quoi, en fait ?
Le confinement a révélé des choses positives, c'est-à-dire le prix, l'importance extrême de la communauté universitaire, de la socialisation dans sa communauté universitaire, de sa confrontation, ce brassage culturel.
Le besoin d'être ensemble.
Le besoin d'être ensemble, en fait. Le besoin de se confronter aussi à des modèles, aux modèles des enseignants physiquement présents, qui sont des modèles identificatoires forts, et porteurs et qui les tirent vers le métier. Donc, ils ont été privés de tout ça et ça a été extrêmement compliqué et confronté au climat, évidemment, anxiogène global, d'insécurité.
Mais pourquoi ils n'ont pas réussi à dépasser ça alors que nous, les adultes, pour la plupart, on l'a dépassé assez facilement ?
Ils l'ont dépassé. Ils l'ont dépassé. Pour ceux qui étaient étudiants pendant cette période, ils sont en activité aujourd'hui. Mais nous voyons arriver aujourd'hui les adolescents, ceux qui étaient adolescents à cette époque, qui ont été extrêmement fragilisés. Tous les collègues pédopsychiatres ont pu dire à quel point les adolescents enfermés dans une période, justement, qui est une période d'autonomisation, d'externalisation par rapport à la famille, de quête identitaire hors de la famille, ces adolescents, ils ont été enfermés dans une famille qui était d'ailleurs très présente. On a assisté à une rétractation familiale. Aussi des parents qui travaillent à la maison et des parents qui, au sortir du Covid, ont continué pour certains à travailler à la maison, d'ailleurs au moins à temps partiel. Et donc, vous voyez un repli sur la dynamique familiale, dans une période où justement, il faut impérativement sortir de soi, sortir de ses repères familiers, être en situation de mobilité. On voit bien évidemment à Paris l'afflux d'étudiants nationaux aussi, hein, pas seulement internationaux. Et ça, c'est un mouvement extrêmement important pour la construction identitaire.
Mais est-ce que c'est parce qu'il y a eu ce repli qu'aujourd'hui, ils parlent énormément de leur intimité qu'ils veulent mettre en avant et favoriser tout ce qui est de l'ordre de l'intime, Hélène Verrizer. C'est ce qui ressort aussi de cette étude.
Alors, ce qui ressort, en effet, c'est pas un repli, mais en tout cas, c'est une concentration, en tout cas, une reconcentration sur soi, sur l'intime, sur les proches, sur la famille, qui, en fait, découle de cet environnement anxiogène. Donc, c'est pas forcément l'idée de dire je me replie sur moi, mais je me concentre sur ce qui me rassure. Et alors on parlait, est-ce que ces jeunes sont plus ou moins optimistes? En réalité, je pense que c'est la première fois, et c'est l'étude qui le montre, que les jeunes ne sont pas plus optimistes que les autres tranches d'âge de la population. Et c'est ce qui, je pense, aujourd'hui fait en sorte que ces jeunes sont un peu des adultes à part entière, avec des problématiques qui sont les mêmes que celles d'un père de famille ou d'une mère de famille ou d'un adulte classique. Et du coup, peut-être, en effet, ils doivent faire face plus tôt qu'avant.
C'est plus difficile de prendre ses responsabilités aujourd'hui, Dominique Montchablon ?
Alors, pour poursuivre sur la question de la famille a toujours été le premier pilier des étudiants. Concernant les étudiants, cette population spécifique, assurément. Hein, pourquoi ? Parce qu'ils continuent à assurer un soutien affectif, un soutien financier. Donc là, ce n'est pas une découverte. Ça a été accentué par le Covid. Mais famille élargie, c'est-à-dire les proches aussi, les amis d'enfance, collège, lycée, etc. Donc on est dans cette rétractation. Bien sûr qu'aujourd'hui, alors le modèle familial est un modèle essentiel. Et je veux dire que la mise en conflit des générations me semble absurde. Ils sont totalement associés aux différentes générations qui les ont succédé, d'abord parce que ces générations les soutiennent et que...
Oui, j'ai l'impression que, pardon, mais le conflit des générations, c'est plus vrai aujourd'hui.
Absolument pas. Absolument pas, parce qu'on a besoin de générations seniors, même quand on est actif et parents, on a besoin...
Oui, mais pas forcément de quelque chose de conflictuel.
Non, on n'est plus. Je pense que ces jeunes ne sont plus dans le conflit parce qu'ils sont dans une situation d'anxiété. Alors, je vous remercie d'avoir souligné, évidemment, est-ce que le rapport souligne la situation d'anxiété ? Pourquoi la situation d'anxiété ? Est-ce qu'il y a un facteur majeur ? Oui, un facteur majeur. Le métier d'étudiant, c'est un métier de frustration dans l'actualité, frustration actuelle pour un bénéfice différé. Demain, on se prive et plus on se prive, plus le bénéfice doit être important. Plus le parcours est sélectif, on renonce à tout pendant une certaine période, plus le bénéfice attendu est important.
Or, il ne l'est pas forcément.
Et voilà.
Et c'est ce que disait très bien Sophie.
C'est ça.
Pardon, c'est ce que disait très bien Sophie tout à l'heure. Elle disait, moi, j'étais major de ma promo. J'ai toujours cru que si je travaillais bien à l'école, tout allait bien se passer. Et à la fin, le RSA.
Tout à fait. Et pour revenir aussi peut-être sur ce sujet de la sphère proche et familiale, l'étude, je vous donne un petit chiffre. Dans l'étude, il est indiqué que 76% des jeunes préfèrent avoir quelques amis très proches sur qui compter. Donc c'est vrai qu'on a quand même, et je vous rejoins sur le fait que la sphère familiale est importante pour ces générations, mais elle se concentre de manière, on va dire, plus concentré, pour le coup, avec une sphère plus resserrée. Voilà, on n'est pas forcément avec plein d'amis, mais on est avec des amis sur qui compter.
Bonsoir Rose.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue.
Merci.
Ah, j'adore, vous avez une voix joyeuse, vous aussi, ça fait plaisir. Nous vous écoutons.
Oui, voilà, donc j'aurais souhaité donc apporter ma contribution à votre émission. Donc merci beaucoup de m'accorder ce temps. Donc en fait, il me semble que la thématique, c'est est-ce que les jeunes sont heureux, contents dans cette société. Alors du coup, moi je trouve qu'une problématique majeure, c'est celle des écrans et du téléphone. Pour moi, en fait, on passe un peu sa vie par procuration. On passe beaucoup de temps devant les écrans à regarder ces influenceurs. Et en fait, regarder les autres vivre, du coup, au lieu de vivre pleinement notre vie à nous, de sortir, de se parler. Et pour moi, c'est très malsain aussi de vouloir faire comme les autres, de porter les mêmes habits, les mêmes objets de marque, etc. Ça n'encourage pas la diversité, l'autodétermination, et ça crée aussi un espèce d'isolement.
Ça vous pèse, il y a une espèce de vous vous sentez jugé, c'est ça ?
Non, pas forcément juger, mais en fait, c'est comme si c'était un peu un effet de groupe, où, voilà, de, un peu de mouton de partenuse, on doit faire comme les autres, ben, au lieu ben, de choisir sa vie.
C'est encore puis... plus difficile de choisir son propre chemin, vous voulez dire, si on n'est pas exactement dans la norme, enfin, dans la norme de ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux.
Voilà, c'est ça. Et puis, oui, on peut être facilement un petit peu écarté si on ne suit pas les autres, si on ne s'exprime pas comme eux. Et il y a autre chose, c'est qu'on se dit toujours aussi que notre vie, elle est moins bien. Parce que quand on regarde les influenceurs, tout est beau, parfait, c'est un peu un monde de bisounours. Alors que ce n'est pas la réalité. La réalité n'est pas parfaite. Et ça, c'est normal, en fait. Mais ça peut mettre certains à mal parce que ça attise la convoitise. Pour certains, de voir un peu voilà, ces influenceurs qui partent en voyage, où tout est un petit peu mirobolant.
Mais tout est parfait, mais vous y croyez à cette perfection, non. En fait, ça vous influence d'une certaine manière?
Non, pas moi, parce que moi, justement, moi, je ne les suis pas, mais j'ai observé ça chez beaucoup de mes camarades et amis, et je pense que pour moi, pour rapprocher les gens, les jeunes et les moins jeunes, en fait, pour moi, il faudrait se détacher des écrans et puis réinstaurer du dialogue entre les gens. Et pour moi, ça passe ça passerait. Pour moi, si je devais apporter une piste de solution et pas que faire des constats, pour moi, on devrait un petit peu refondre le système scolaire et apprendre le vivre ensemble. C'est-à-dire faire des activités manuelles, je ne sais pas.
Se détacher des écrans, parce que vous nous dites qu'on a l'impression finalement que quand on regarde ces réseaux sociaux, la vie est moins bien. C'est quelque chose sur lequel l'enquête est là, va travailler Hélène Verizer.
Tout à fait, du coup, je vais me permettre de rebondir sur ce que disait Rose, qui est évidemment très vrai, mais un des chiffres qu'a fait ressortir l'enquête est assez intéressant et qui casse un peu les codes et l'image de ce jeune connecté H24 sur TikTok. C'est qu'en réalité, évidemment, l'IA et les réseaux sociaux ont une place prépondérante, mais l'étude a révélé que le rapport était plus algorithmique que médiatique, et que une IA ou les réseaux sociaux pour cette nouvelle génération avaient plutôt une valeur de coach, voire d'accompagnateur ou de soutien émotionnel pour quasiment un jeune sur deux, et plus même. Donc c'était quelque chose d'assez intéressant.
Est-ce que c'est ambigu finalement la relation de cette Gen Z avec les réseaux sociaux, Dominique Montchablon?
Absolument, c'est ambigu et ça dépend également de l'âge, de la maturité. Et je dirais
là, Rose, elle a 25 ans, mais elle, visiblement, elle n'est pas dedans, mais elle met en garde les plus jeunes.
Oui, et du bagage culturel qui leur permet de prendre un peu de distance par rapport au miroir aux alouettes présenté par ces influenceurs dont parle Rose. Oui, c'est un Janus à deux faces. Effectivement, les études ont montré que en fonction du temps passé sur les écrans sociaux, les jeunes pouvaient présenter une vulnérabilité accrue à l'anxiété et à la dépression. Et pourquoi ? Parce que ça touche le narcissisme des jeunes. On est là dans la vulnérabilité narcissique de la comparaison avec d'autres, et cette comparaison virtuelle est toujours négative. Mais en revanche, effectivement, les réseaux sociaux ont, ont un apport considérable pour ceux, pour ces sujets anxieux qui ont du mal s'immiscer dans la communauté des autres jeunes, trouver leur place dans le groupe, à s'intégrer. Et heureusement, finalement, que ces réseaux sociaux sont là pour certains, notamment certains de nos malades qui sont extrêmement isolés, repliés chez eux, vous les appelez Kikomori, mais qui continue quand même à avoir le sentiment d'être immergé dans un minimum de socialisation, même si elle est virtuelle. Je rajoute que la socialisation dont parle Rose, la vraie socialisation, c'est le premier rempart contre la dépression. Et je pense que là, on a un effort à faire considérable, notamment
c'est-à-dire
au sein des universités.
Avoir des amis, avoir des activités sportives, etc.
Je pense que l'environnement universitaire, ou comme l'environnement scolaire, mais pour l'environnement scolaire, c'est plus facile, parce qu'on est une année entière dans une classe qui est extrêmement soudée la plupart du temps. Pour les étudiants, c'est beaucoup plus compliqué. Et l'environnement universitaire, comme dans les grandes écoles, devrait renforcer, ils le font déjà, mais devrait renforcer encore de manière considérable ces temps interstitiels de communion entre pairs autour d'activités culturelles, sportives, pourquoi pas de compétitions diverses et variées, compétitions mais des émulations positives.
Alors on parlait des réseaux sociaux, c'est aussi un endroit où on s'engage. Bonsoir Johan Reboul.
Bonsoir.
On a voulu vous avoir en ligne ce soir. Alors vous, vous êtes connu sous le nom de Le Jeune Engagé. Vous avez 200 000 followers sur Insta et vous développez un contenu centré sur la mobilisation des jeunes, sur l'engagement citoyen, notamment face aux enjeux politiques et écologiques. Expliquez-nous.
Exactement. J'essaie de montrer que l'influence, ça peut être autre chose que ce dont on a évoqué à l'instant, de montrer qu'on peut se rassembler, qu'on peut être plus fort, notamment en étant jeune. Moi, ça fait 10 ans que je m'engage et on m'a toujours dit que j'étais trop jeune pour m'engager, que je devrais m'occuper d'autres choses et aller voir ailleurs. Et en fait, j'ai envie de montrer aux jeunes qu'on a toute notre place dans le débat, et notamment le débat politique. Et là, je le vois avec les jeunes aujourd'hui qui m'envoient des messages tous les jours en me disant qu'ils justement ils sont angoissés par l'actualité et ce qui est en train de se passer. Et donc, essayer de les mobiliser pour montrer qu'on peut agir en collectif.
Et agir et ne pas subir, en fait. Hein.
Exactement. En fait, reprendre un peu le narratif, reprendre les discours. Et notamment, dans un mois, il y a des élections municipales qui arrivent et on entend peu de candidats parler à la jeunesse. Et j'ai envie de justement replacer les jeunes au cœur des débats.
Et vous disiez tout à l'heure, ils n'osent pas s'engager. Pour quelles raisons ? Que vous disent-ils ?
Ben en fait, je pense que c'est souvent des personnes qui sont justement isolées et qui se disent tout seuls, je ne pourrai jamais m'opposer à ce qui est en train de se passer. Quand on voit les actualités de Donald Trump chaque matin quand on se lève, on se dit c'est impossible de pouvoir s'opposer à ce monde qui part un peu en vrille. Et c'est justement en expliquant que si on se rassemble, si on travaille ensemble, si on se mobilise autour de nous, si on recrée du lien, et Rose en a parlé également, on peut faire de grandes choses petit à petit. Et c'est ce que j'essaye de montrer, remettre un peu de positif dans tout ça, parce que la bataille n'est pas encore perdue.
Et s'ils n'osent pas s'engager, c'est peut-être aussi parce qu'ils ne se sentent pas forcément légitimes.
Oui, ça c'est une question que moi j'ai ressentie très tôt sur tous ces sujets-là, et c'est aussi de la manière dont on peut communiquer avec eux en fait, et on va leur dire qu'ils ne sont pas légitimes sur ces sujets-là, parce qu'ils ne sont pas assez grands, qu'on ne comprend pas, on nous prend un peu pour des jeunes qui vivent des fois dans un monde de bisounours, alors que c'est clairement pas le cas, quand on essaye de revendiquer des sujets ou qu'on essaye d'avoir des débats. Donc je pense qu'il y a vraiment aussi une mentalité à faire évoluer sur ce sujet-là.
L'écologie, ça marche encore, Johan ?
C'est compliqué en ce moment.
C'est bien ce qui me semblait.
Oui, c'est compliqué. Il y a vraiment un revers sur les questions écologiques et je le date à partir de la deuxième élection de Donald Trump qui a vraiment mis un coup de découragement sur la question et notamment sur le fait qu'il y a des revers, mais partout. On le voit aussi en France, on coupe l'argent de l'écologie dans le budget, on veut remettre des pesticides qui avaient été interdits. Il y a vraiment ce découragement de dire aussi qu'on avait fait des belles avancées sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, en fait, toutes avancées, elles sont en danger, elles sont vulnérables, comme les jeunes. Mmh. Et ça, c'est assez flippant.
Mmh. Le découragement, c'est quelque chose qu'on a retrouvé aussi dans l'enquête Elab pour le Cercle des économistes, Hélène Verizer.
Alors, sur l'engagement...
Ah, attention, parce que votre micro n'est pas ouvert. Voilà, ça va beaucoup mieux.
Sur l'engagement, en effet, l'étude a mis en avant le fait qu'il n'y avait pas de grande cause auxquels les jeunes pouvaient vraiment s'attacher, sur lesquels ils pouvaient s'embarquer.
Ça veut dire que l'écologie n'est plus une grande cause alors qu'on a cru qu'elle allait l'être quand même.
Alors, je vais vous donner une anecdote, en réalité, qui ne date pas forcément de cette année, mais les études sur ces nouvelles générations, on a commencé ça il y a 4 ans. Et à l'époque, évidemment, on s'est dit le sujet de la transition énergétique et de l'environnement va être le sujet majeur.
Oui.
Et en réalité, ça a été le sujet le plus difficile à traiter par les jeunes, parce qu'on leur demandait potentiellement de trouver des solutions. Et sortir de « je trie mes déchets, j'utilise moins les transports, je ne prends pas l'avion », il y avait un positionnement de problématique qui n'était pas le bon. Et c'est le jour où on a parlé de transition énergétique, dans ce sens où quelles pourraient être les politiques publiques globales.
On a ouvert, en fait.
On a ouvert le débat et on les a impliqués dans ce débat. Je pense que le vrai sujet, et il le disait parfaitement, c'est que, et c'est aussi ça, l'intérêt des nouveaux moyens de communication et des réseaux, c'est qu'ils vont pouvoir s'emparer d'une manière différente de débats majeurs, en pouvant y trouver leur place. Mm-hmm. C'est ça qui est intéressant.
Et Johan Reboul, qu'est-ce que vous en dites ? Ah, voilà. Je crois qu'il a raccroché, Johan Reboul. Dominique Monchablon parlait de légitimité tout à l'heure. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui les plombe un petit peu, nos jeunes ?
Oui, alors ça, c'est une question très importante qui nous laisse tous extrêmement perplexes. C'est ce sentiment d'illégitimité au sortir des études universitaires, au moment où ils sont équipés pour se lancer dans la vie professionnelle, cette frilosité, cette inquiétude. Ce sont des étudiants qui sont graves à ce moment-là, qui deviennent graves. C'est-à-dire qu'ils sont laissés leurs responsabilités, des responsabilités à venir, dans des tâches qui s'avèrent quand même de plus en plus complexe. Je peux donner des tas d'exemples. Serait-ce que, par exemple, la carrière médicale, qui devient, que la pratique médicale s'alourdit à tout un tas de procédures, notamment la pratique hospitalière, par exemple, mais aussi du risque de judiciarisation sur ce que vous allez faire, ce que vous n'allez pas faire, etc.
C'est un monde plus complexe aussi.
Oui, sentiment d'insécurité quand même aussi pour certains métiers. Je pense aux enseignants, je pense. Et donc, qui rend plus difficile la tâche à ces jeunes diplômés. Et qui demandent donc un soutien, un étayage des seniors dans leur métier. Et ça, c'est une grande surprise, je dirais, interuniversitaire, qui concerne tous les cursus universitaire professionnalisant. Ces enseignants s'interrogent, ces directeurs d'établissement s'interrogent sur ce sentiment d'incompétence. Ils sont tout à fait compétents, en tout cas cette frilosité et cette demande d'étayage. Et donc, je pense qu'il faut vraiment travailler là-dessus, notamment dès le début de l'insertion professionnelle à travers les stages, sur des groupes de parole, sur un étayage de leur maître académique, et puis au sortir également du parcours universitaire, les soutenir dans l'entrée dans la carrière.
Eh bien, le travail, venons-y justement avec Karine qui est en ligne. Bonsoir.
Bonsoir.
Nous vous écoutons, Karine. Soyez la bienvenue sur France Inter.
Merci. Alors moi, je suis maman de 3 grands garçons qui ont entre 20 et 29 ans.
Oui.
Et j'ai constaté chez mes 3 garçons le fait que la qualité de vie, les relations humaines, les amis, le sport faisaient que était important pour eux. Et du coup, le monde du travail, ils n'en ont pas la même perception que celle que nous avions quand on était jeunes. C'est-à-dire que nous, on a notre génération était, disons, très investie dans la recherche d'un emploi et c'était quelque chose de très important. Et pour eux, eh bien, c'est important, certes, mais ils veulent absolument préserver leur qualité de vie et il ne faut pas que le travail devienne envahissant dans leur vie privée. Mmh. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve aussi auprès de certains des jeunes que je côtoie. Et voilà. Et donc, ils font une sorte de vœu de sobriété, c'est-à-dire que
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? C'est quoi le vœu de sobriété ?
Eh bien, c'est-à-dire que lorsqu'on veut travailler moins, on peut éventuellement, par exemple, accepter un temps partiel.
Oui, c'est
de façon à se préserver du temps en qualité. Et puis, même si cela occasionne un revenu forcément un petit peu moindre, eh bien, on s'en accommode. Et puis, ça correspond aussi à une forme de sobriété qui peut être en rapport avec les préoccupations écologiques. Mmh. Donc, voilà. Je trouve que c'est quelque chose qui nous a beaucoup étonnés et Absolument. Finalement un point de vue auquel on finit par souscrire nous aussi assez largement.
Mmh. Voilà. Le rapport au travail qui a changé, ça aussi c'est quelque chose de fondamental dans votre étude, Hélène Verizer.
Oui, en effet. Alors, avant de parler de l'emploi, moi je pense que ce qui a changé aussi pour ces nouvelles générations, c'est leur parcours d'orientation. Je pense que c'est aussi fondamental dans comment ensuite ils vont vivre leur parcours professionnel. L'étude a mis en avant le fait que 6 jeunes actifs sur 10 envisagent déjà de changer de métier dès leur premier emploi. Dans leur formation, beaucoup se disent que de toute façon, l'IA va peut-être potentiellement, pour la moitié d'entre eux, arrêter leur métier. C'est-à-dire qu'ils vont transformer, ils sont face à un vrai bouleversement de leur avenir professionnel. Et sur l'emploi, alors moi je suis assez d'accord avec votre auditrice, mais l'étude a montré qu'en fait, le travail était toujours central Clairement, ces nouvelles générations trouvent que le travail, c'est important parce que c'est une façon de s'épanouir, c'est une façon d'accéder aussi voilà, à une certaine une vie, le logement, enfin toutes ces choses. C'est vrai qu'on dépeint une jeunesse quand même assez, assez pessimiste jusqu'à présent, avec un portrait plutôt inquiétant. Mais il faut quand même rester optimiste. Ils ont quand même envie de faire beaucoup de choses, ils ont envie de travailler.
Ils ont envie de faire beaucoup de choses, mais c'est vrai que le travail, finalement, il a une autre place dans leur vie, Dominique Monchablon.
Je pense qu'ils souhaitent préserver un certain équilibre.
C'est ça.
Et on ne va pas s'en plaindre, ma foi.
Oui, il y a un équilibre, en fait, entre vie professionnelle et vie privée qui n'est pas du tout celle de leurs parents.
Oui, assurément, au moins dans le souhait. Maintenant, à l'usage, quand on les voit dans, s'investir dans leur premier emploi, parfois, cet équilibre, il ne dure pas vraiment. Mais il est vrai qu'ils sont déjà très engagés. Et je souhaiterais quand même en parler, parce que bon nombre d'entre eux, peut-être, je dirais, je situerais aux alentours 10%, sont déjà très engagés dans le soutien familial. Hein. Les familles, leurs parents, les familles sont précarisées, sur le plan économique pour certains, sur le plan affectif pour d'autres, je pense aux familles monoparentales, aux séparations, divorces, je pense à l'état de santé des parents, le retard de la parentalité, hein, le fait que, bah, quand ils arrivent, quand les enfants ont 20 ans, les parents sont déjà entrés dans un âge où on peut, hein, on devient beaucoup plus vulnérable au regard du cancer, etc. Et je considère qu'à peu près peut-être 9 à 10% des étudiants qui sont étudiants aidants familiaux déjà. Hein, et ils se projettent dans une vie de couple, voilà, où il va y avoir une juste répartition des tâches entre les conjoints, homme-homme, femme-femme ou homme-femme. Et donc, ils ont mis déjà dans leur équation de travail toutes ces lourdes tâches. Quand je disais tout à l'heure qu'ils prennent une certaine gravité, moi je suis... effectivement, ils ont perdu leur légèreté parce qu'ils sont déjà, je dirais, vous voyez...
Ils sont déjà en responsabilité,
très
en fait.
Impliqués.
Très impliqués. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir.
Nous vous écoutons.
Je suis sur la limite haute de la Gen Z. C'est un petit peu stressant quand même d'être à l'antenne, je ne vous le cache pas, j'adore votre émission d'ailleurs.
Mais alors détendez-vous, on est entre nous en fait. Hein.
Entre nous et toute la France.
Non, pas du tout.
Je suis marié, on a une maison, on travaille tous les deux avec de bons postes et des responsabilités. Et en fait, c'est vrai que c'est une position qui pourrait sembler plutôt idéale, surtout à nos âges, mais qui ne l'est vraiment pas, parce que c'est à la fois difficile d'un point de vue des gens de notre âge qui, pour un certain nombre, n'ont pas forcément cette situation. Donc on a un sentiment d'illégitimité, je dirais, et vis-à-vis des collègues plus âgés, un sentiment pareil d'être... un peu un syndrome de l'imposteur, avec un travail qui, même si je rejoins ce que disait votre intervenante juste avant, on souhaite moins d'investissement, mais tout nous pousse à plus d'investissement avec le téléphone qui permet de tout traiter tout le temps, un investissement des entreprises qui en demandent toujours plus, donc on veut en faire moins. Et on voudrait plus d'équilibre, mais...
Mais vous n'y arrivez pas.
C'est très compliqué, oui. Et ça remet beaucoup de choses en cause, que ce soit des projets de suite, des enfants, même des projets professionnels. Mmh.
Ça veut dire que vous allez attendre ?
Ça, c'est une excellente question. C'est un peu la question du moment, puisque avec deux travails à plein temps, des contrats à 40 heures théoriques, on va dire, et... beaucoup de déplacements pour nous deux, ça nous semble absolument inconciliable d'avoir un enfant aujourd'hui, plus toute la situation, on va dire, géopolitique, le réchauffement climatique et toutes les choses qui...
Tout ça, ça pèse en fait, tout ce qu'il y a, tout ça, ça pèse dans vos choix intimes, en fait, Guillaume.
Absolument, oui, tout à fait. Oui.
Alors, Guillaume nous parlait du syndrome de l'imposteur, Dominique Monchablon. Je vous ai vu sourire.
Oui, le syndrome de l'imposteur, tous les étudiants en fin de cursus se partagent. Plus on est compétent, plus on mesure notre incompétence. C'est un paradoxe. Mais il y a aussi, pour certains qui rentrent dans la carrière, un sentiment d'incomplétude. Au fond, ils rentrent dans une carrière naturelle en fonction de leurs études, mais ils auraient souhaité faire tout à fait autre chose. Et aussi, pour d'autres, un sentiment d'incompétence par rapport à, notamment, à la concurrence pour le premier emploi ou pour le changement changement d'emploi, etc. Donc, ce sentiment-là d'imposture, il est, je pourrais dire à ce garçon, à cet homme qui intervient, très, très rassurant. Il est à la hauteur, justement, de son niveau de compétence. Alors, maintenant, la question du choix de la parentalité, par exemple, la question de la crainte d'être débordé par son investissement professionnel et tout gérer en même temps, c'est une question absolument fondamentale. Et qu'on pourrait élargir la question de la souffrance au travail aujourd'hui et du prix, du coût économique pour notre pays.
Cette question-là, elle n'a pas, enfin, je veux dire, on se la pose à tous les âges.
Alors, mais il faut se la poser en continuité. C'est-à-dire que, effectivement, si on présente une fragilité déjà au sortir de l'adolescence, pendant les études, qui n'a pas été repérée, qui n'a pas été prise en compte, cette fragilité préexiste, et à chaque, je dirais, facteur de stress supplémentaire, elle va se réactiver par des petits signes symptomatiques de l'anxiété, de l'insomnie, que sais-je. Et en situation professionnelle, elle va se réactiver aussi par un cumul facteur de stress qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Il y a la parentalité, la conjugalité, j'ajouterai quand même, et les aléas professionnels.
Alors, comment faire pour gérer tout ça?
Alors, ça, c'est une question capitale, voilà. C'est parce que cette situation amène à un conflit intime de loyauté. Il faut faire des choix, prioriser. Et ce qu'on leur apprend dans nos consultations psychologiques, dès l'entrée à l'université, c'est qu'il va falloir prioriser des moments où on va s'occuper peut-être des vieux parents qui sont à l'hôpital souffrants, et puis des moments où on va s'occuper du concours qu'on va passer, qu'on ne peut pas tout faire en même temps. C'est ça, je pense, le soutien qu'on peut apporter pendant les études, avant l'entrée dans la vie professionnelle, de savoir ce qu'on va prioriser à un instant T. Ce n'est pas une priorisation définitive, c'est une priorisation temporaire.
Il faut se poser cette question-là à un moment bien précis, Hélène Verizer. Prioriser.
Alors moi, je voulais juste rebondir sur l'état un petit peu de ce jeune. C'est qu'il ne s'inquiète pas. L'étude a prouvé que les trois, on va dire, sur les 15-29 ans qui ont été interrogés, il y a vraiment trois catégories qui sont beaucoup plus en vulnérabilité que d'autres, à savoir les NEETs, les jeunes femmes et ceux qui rentrent dans la vie active.
Alors les NEETs, ce sont ceux qui sont ni en emploi, ni en études, ni en formation.
Exactement.
Hein. Oui. D'accord. Eh ben merci pour vous, merci pour tout. Merci d'être venue, Hélène Verizer. Dominique Monchabon, merci à tous ceux de la Gen Z qui nous ont appelés ce soir pour témoigner.